Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vincent, dans les autres nouvelles, ce matin, le ministre Dubé faisait état là, des nouvelles personnes qui entrent dans les hôpitaux, qui entrent dans les soins intensifs. Bon, on peut dire que c'est un hasard, parce que souvent, il y en a une ou deux personnes vaccinées dans le lot, mais dans les chiffres, les données là, compilées ce matin, il y en a pas du tout. Là.
Non, et ça frappait quand même comme données. Là, dire, il y a 30 personnes qui entrent aux soins intensifs, et ce sont 30 sur 30, ce sont des non-vaccinés là, pour ce qui est d'aujourd'hui.
Je sais pas si l'Ontario a publié toute une série de chiffres, je pense que c'est ce matin, là. On est dans les mêmes chiffres. Les gens qui attrapent la COVID, qui sont hospitalisés. Et dans le cas des décès, les décès des personnes vaccinées, là, c'est presque à zéro. Hein. C'est presque, ça frise, là, c'est des très, c'est le nombre, là, c'est presque à zéro.
Ouais, il y a du monde, et on le rappelle souvent, ceux qui se retrouvent aux soins intensifs sont souvent déjà très, très malades, beaucoup de comorbidités.
Oui, mais c'est ça, mais malgré ça, ils survivent. Et c'est ce que disait, je pense que c'est le docteur Weiss qui me disait ça la semaine passée. Il disait, une personne très âgée et faible, vaccinée, a des meilleures chances aux soins intensifs. Une fois rendu aux soins intensifs, a des meilleures chances qu'une personne en forme, pas vaccinée. On est rendu là, là.
On est rendu là. D'ailleurs, il disait donc aujourd'hui que le message était clair. Ceux qui ne sont pas vaccinés, d'aller se faire vacciner, parce qu'en ce moment, ceux qui sont entrés dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, c'était uniquement des non-vaccinés. D'ailleurs, on était plus 8. Là. On comprend, c'est 30, mais il y a eu des sorties, donc on était plus 8. On frôle 100 personnes aux soins intensifs. Alors, ça continue de monter. D'ailleurs, Christian Dubé, peut-être quand même dans le bilan des cas, c'est intéressant parce qu'on a 8 personnes aux soins intensifs. Ça, c'est très mauvais. Là. C'est un bond quand même de presque 10%. En une journée, 262 personnes hospitalisées, plus 6, 3 décès. Au niveau des cas, par contre, c'est encore moins que la semaine dernière. Et souvent, je disais, c'est le vendredi qu'on voyait le bon. Là, on a 837.
Mais si tu mets sur une courbe la quatrième vague en nombre de cas, c'est pas comparable. Ça monte beaucoup moins à pic que dans les beaucoup moins abruptement que dans les vagues précédentes. Oui. Et ça se faisait quand c'est parti en octobre l'année passée. Là, ça montait d'une journée. Tu sais, c'était 100 de plus puis 200 de plus d'une journée à l'autre.
Oui. Et là, si demain, souvent c'est tout le vendredi ou samedi, si demain on a encore ça en bas de 1000, il faudra dire que là cette semaine on va avoir par rapport à la semaine dernière, il n'y aura pas une grosse hausse au niveau des cas. Ce serait une bonne nouvelle. Oui. Si ça se confirme au bout de la semaine, on verra parce qu'on disait plutôt cette semaine qu'il y avait un peu de données en retard. Alors je suis bien prudent là-dessus, mais on a quand même fait 2-3 jours qu'on a des données qui ressemblent vraiment à la semaine dernière, plutôt qu'en forte hausse de 15-20-30%. Donc ça, ce sera à surveiller. Aussi, parlant de Christian Dubé, avait quand même un point sur la pénurie. Là. C'est vraiment le dossier des derniers jours. Comment on va régler ce problème de pénurie, de risque de bris de service? Mais aujourd'hui, Christian Dubé est revenu sur le fait qu'il allait arriver avec un plan très clair, agressif, et qu'on allait se baser sur les meilleures pratiques, parce qu'il semble qu'il pas autant d'utilisation de temps supplémentaire obligatoire à certains endroits, comme l'hôpital juif, par exemple. Alors, on va s'inspirer des meilleures pratiques pour essayer d'arriver avec des solutions rapides. On peut écouter le ministre.
On sait qu'en ce moment, il manque de personnel, puis on dit, on veut pas être devant un fait accompli à une journée où on frappe le mur. Et moi, ce que je me suis engagé, c'est de faire cette réorganisation de services-là le temps qu'on mette des propositions beaucoup plus structurantes sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher du personnel. On va faire des annonces là qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous sont poussées par le fait qu'on a regardé des nouvelles façons de faire avec la pandémie. Alors, je vous demande juste d'être patient pour quelques jours.
Mais bon. Ce qui circule, là, on va appeler les choses par leur nom, on va appeler l'hôpital par son nom, oui. C'est le Jewish. L'hôpital général juif. Mm-hmm. Le Jewish, c'est ce que t'entends, c'est ce que t'entends entre les branches.
C'est là qu'il n'y a pas de TSO.
Il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Moi, j'ai des amis de Rivière-du-Loup qui ont fait leur carrière là. Des amis de d'école secondaire qui ont étudié en technique infirmière. Puis, je me souviens d'avoir entendu ça, que c'est là que tu veux travailler, c'est la meilleure place au niveau du respect du personnel, puis tout ça. je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais je peux être étonné qu'on arrive aujourd'hui et que... Tu sais, on dit toujours faut copier les meilleures pratiques. Ouais. Là, que là, faut
c'est pas nouveau que c'est connu que c'est là, les meilleures pratiques.
Mais ça prend une telle crise pour qu'on dise, ben là, on va aller voir ce qu'ils font, ceux où ça marche, qu'est-ce qu'ils font, là? Comment ils s'y prennent?
En fait, j'ai l'impression que ceux-là sont pas tombés dans le cercle vicieux de temps supplémentaire obligatoire, il y a de la fatigue, il y a plus de gens qui calent malade, il y a plus de temps supplémentaire obligatoire.
Une fois que t'entres dans ce roue-là, t'es fait à l'os.
C'est ça. Mais eux, s'ils sont jamais tombés là-dedans, en essayant toujours de compenser, trouver d'autres façons, ben, ils sont pas tombés dans cette descente-là à la fatigue de leurs employés, qui fait qu'il y a de plus en plus de temps supplémentaire obligatoire. D'ailleurs, on cherchait, puis je voyais l'hôpital du Suroy, là, où on a dû fermer temporairement l'urgence. C'est reparti, mais on exclut vraiment pas de devoir le refaire plus tard parce qu'il y a un manque de personnel, beaucoup, beaucoup de fatigue. Mais à la direction de l'hôpital du Suroy, on disait aujourd'hui qu'on voulait offrir aux infirmières un horaire à la carte. Et là, en disant, ben, par exemple, une infirmière qui voudrait travailler 3 jours semaine, ben, on va respecter ça. Mais je dis, c'est bien beau, mais si t'as personne, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux garantir ça dans la mesure où t'as pas de monde? Donc, t'as le jeu de dire, on va offrir de belles conditions, venez travailler chez nous, mais entre-temps, c'est dur d'offrir ça.
Non, c'est parce que t'as des horaires à remplir. C'est pas... tu sais, il y a des gens dans l'industrie, par exemple, du jeu vidéo qui disent aux... T'as des programmeurs, travaillez comme vous pouvez travailler. Tant que vous faites 40 heures par semaine, ça peut être de jour, de nuit. Tant que vous faites vos heures, vous pouvez faire 20 heures consécutives.
On est flexible.
On est flexible sur les heures parce que t'as une production à livrer. Puis tant que tu livres ta production, c'est correct. Mais là, t'as un service à donner avec une présence. Là, tu faut que quelqu'un soit là de 8 heures à 4 heures, puis de 4 heures à minuit. Il faut que quelqu'un soit là tout le temps pour te donner les services. Donc, t'as pas le choix, monnaie, d'imposer des horaires à des gens, puis de t'assurer que les quarts de travail les plus impopulaires, ceux que personne veut, ben faut que t'aies quand même des gens qui vont être présents. Là.
Mais il semble à la fois François Legault et Christian Dubé confiants qu'ils peuvent arriver avec une solution. Je cherche encore à trouver d'où vient cette confiance-là. Peut-être qu'ils ont des informations ou des idées intéressantes.
On comprend qu'il y aura une annonce la semaine prochaine.
Oui, et on sera peut-être surpris même des moyens utilisés pour amener des gens dans la profession et de les retenir. Donc, ça va être à surveiller. Mais on nous promet ces détails-là dans les prochains jours.
Et toujours sur la pandémie, le passeport vaccinal est entré en vigueur depuis mercredi. Mais évidemment, on a l'œil de la fin de semaine parce que bon, il y a plus de monde qui vont au restaurant, plus de genre d'activités qui requièrent le passeport vaccinal le week-end. Et là, un peu partout dans le Québec, les corps policiers disent on va surveiller qu'il est vraiment respecté.
Oui, et on se le demandait, hein, comment on va vérifier ça, le passeport vaccinal? Est-ce qu'il y aura réellement des agents? Est-ce qu'il va y avoir des opérations? Ben finalement, oui, parce qu'on avait eu peu d'informations là-dessus dans les dernières semaines. L'opération Passeport, et c'est le service de police de la ville de Lévis qui a un peu révélé dans un communiqué qu'on allait de l'avant, non seulement là-bas, mais avec tous les corps policiers du Québec qui vont, et ce, pas juste ce week-end, jusqu'au 1er novembre, faire des opérations fréquentes de vérification du passeport vaccinal.
Ça, c'est quoi la moitié de l'opération, là? C'est ce communiqué de presse-là.
Oui, pour avertir les gens.
Oui. La moitié de l'opération, c'est de dire qu'il va y avoir une opération parce que même
ça va être massif, ça va être partout.
Ben oui, parce que même si dans une ville, t'as pas vraiment de ressources policières disponibles en fin de semaine pour le fait que t'aies menacé de le faire, tout le monde fait plus attention.
Oui, c'est sûr qu'il y en a qui ont pas tendance à vouloir se faire pogner, là, et qui ça va réveiller. Mais on dit qu'il y aura des gens habillés en uniforme, mais aussi en civil. Donc, des policiers en civil, là, déguisés en clients qui vont arriver, puis là, ah, t'as-tu ton passeport vaccinal et qui vont vérifier ça. Il y aura des vérifications.
Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à jouer le jeu, là, comme on fait en prostitution parfois, dire ben moi le passeport, je compte ça, puis je vais aller m'asseoir à la table là-bas. Là.
Ça, je suis très curieux de le savoir parce qu'on dit qu'on va faire des vérifications auprès des commerçants aussi. Donc ça, est-ce que tu peux être un faux client puis dire hey, j'ai pas mon passeport, gars, on s'en fout, wink wink, puis et là après ça.
Clin d'œil.
Je suis un policier, peut-être parce qu'on dit on n'hésitera pas à
c'est
donner des contraventions. Ben c'est quand même une des seules façons de vérifier là. Et je pose dans une ville. Ça finit par se savoir quel restaurant s'en fout. Je veux dire, les policiers sont aussi
les policiers
résidents de leur
tout,
ville.
Ils savent tout, c'est ça.
Là-bas,
ils placotent avec tout le monde.
En même temps, dans certains endroits, les commerçants aussi connaissent peut-être leurs policiers. Mais tu fais une vérification et dans bien des cas, on pourra les prendre sur le fait et donner des contraventions. On verra si on est vraiment sévère ou si on donne des avertissements. En même temps, j'imagine d'arriver un restaurateur qui s'en fout, là, que tu prends sur le fait. Est-ce que vraiment tu lui donnes une chance dans la mesure où c'est clair, là, t'as pas respecté la loi, là? Est-ce qu'on va être très tolérant?
Ce qui nous a pas été trop dit, c'est dans la période de tolérance. Là. Moi, je suis allé au restaurant dans la période de tolérance, puis j'ai pas senti la tolérance. Mais c'est-à-dire que j'avais mon passeport vaccinal, les gens derrière, devant moi aussi.
Oui.
Mais j'ai pas vu comment ils agiraient. C'est une personne. Puis là, je comprends qu'on soit tolérant avec une personne qui manque un papier ou un document ou au début là que son passeport sur son cell ça marche pas exactement. Mais maintenant quelqu'un qui disait la semaine passée, moi je m'en fous là. J'ai pas de passeport, j'en aurais pas. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec eux?
Ben, j'en ai lu des témoignages de gens qui d'anti-vaccins, qui boycottaient des restaurants où on leur refusait l'accès, disant vous avez pas à me refuser l'accès, il y a une période de grâce, je retournerai jamais
là. Il y a des restaurants qui l'appliquaient quand même.
Il y a des restaurants qui l'appliquaient, puis il y a des restaurants où on pouvait qui donnaient cette tolérance-là, mais à d'autres endroits disaient ben c'est non. Puis là dis-moi mais il y a une période de grâce, ben c'est non pareil. Alors, on a donné une certaine flexibilité rendue là probablement aux commerçants, mais il y en a certains qui se sont fait virer de bord, même si on était en période de grâce.
On continue à étudier de près ces vaccins, et une des choses évidemment qu'on étudie à ce moment-ci, c'est la durée de la protection, l'efficacité complète, totale et la durée. Et avantage Moderna?
Ouais, pour l'instant, c'est l'avantage Moderna. Selon les derniers chiffres des États-Unis de la CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies, qui a étudié 3700 adultes hospitalisés pour un cas de COVID associé à des symptômes graves et leur vaccin, là, pour se rendre compte du taux d'efficacité des vaccins à travers le temps. Et on se rend compte que pour l'instant, c'est Moderna qui semble être le plus efficace parce que son efficacité est à 93%. Pfizer est à 88%. Mais ce qu'on note, c'est que Moderna est passé en quelques mois de 93 à 92%. Donc la baisse d'efficacité est minime. Tandis que Pfizer, on passe de 91 à 77.
J'ai vu Pfizer, une étude faite par Pfizer eux-mêmes, si je ne m'abuse, qui dit qu'ils perdent, c'est ça, à partir d'un certain point, tu perds 6% par mois. Là.
Sauf, il y a
mais
toujours...
Mais pas pour l'hospitalisation, pour le risque d'attraper la COVID. Là.
Exact. Là où il y a quand même un bémol sur le Québec, c'est aux États-Unis, ils n'avaient pas le 8 semaines, ce qui semblait être finalement être l'écart qui favorisait une bonne...
Mais nous, on a même 16 semaines dans bien des cas. Beaucoup de monde sont à 16 semaines, puis il semble que c'est encore mieux. Là.
Oui, de sorte que ça, là, les chiffres aux États-Unis ne seraient pas les mêmes probablement au Québec. Le vaccin le moins efficace des trois approuvés aux États-Unis, c'est Johnson & Johnson, qui est à 68%. Donc, c'est quand même beaucoup moins efficace que Pfizer et Moderna. Chez nous, on en a presque pas donné du Johnson & Johnson. Alors, on verra l'efficacité à long terme, mais ça amène quand même chez Pfizer la question qui devient de plus en plus brûlante de la troisième dose. Aux États-Unis, ouais. On l'étudie beaucoup.
Mais
elle arrivera probablement tôt ou tard.
Je voyais des études en Europe où ils disent qu'au niveau de la durée, puis sur le Delta, puis l'AstraZeneca fait pas mal du tout, le fait aussi bien que les... Et finalement, c'est un très bon vaccin. Là. Il y avait ce problème de coagulation qu'on a fini par trouver comment traiter là, quand les gens se présentent aux soins à l'hôpital.
Oui, les Américains n'ont pas de cette statistique-là parce qu'ils n'ont jamais approuvé. Mais effectivement, à l'extérieur, là où ça a été beaucoup utilisé, l'AstraZeneca semblait assez efficace.